Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel et à Lomé, 22h à Kinshasa chez Mobetti Beat. Et 22h à Paris, le journal est présenté par Juliette Pietraszewski. Bonsoir Juliette.
Bonsoir à tous. La COP29 à Bakou se poursuit. Très peu de chefs d'État du G20 sont présents. Parmi eux, le Premier ministre britannique Keir Starmer. Il s'est montré ambitieux. Objectif, faire du Royaume-Uni un moteur de la diplomatie climatique. En Jordanie, en vue de rentrée parlementaire, des négociations entre les frères musulmans et les partis pro-gouvernement sont au centre de l'attention. Correspondance à suivre. Dans l'actualité également, la Suède devient une marque déposée. Elle devient la première nation à inscrire son nom pour la propriété intellectuelle. Et puis au cinéma, Gladiator 2 de Ridley Scott, la suite d'un des succès les plus importants des années 2000. La COP29 à Bakou se poursuit et à l'occasion de cette réunion mondiale pour le climat, très peu de chefs d'État du G20 sont présents. La présence du Premier ministre britannique Keir Starmer a donc été remarquée. Il s'est rendu à Bakou en Azerbaïdjan avec cet objectif, faire du Royaume-Uni un pionnier en matière climatique. Pour sa première COP depuis son arrivée au pouvoir, Keir Starmer se montre donc ambitieux. La volonté de faire du pays un moteur de la diplomatie climatique se fait sentir, Emeline Vin.
Nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Royaume-Uni vise désormais moins 80% d'ici 10 ans par rapport au niveau de 1990. C'est la seule solution face au dérèglement climatique, estime le Premier ministre Keir Starmer.
C'est le chemin pour parvenir à la sécurité nationale, l'indépendance énergétique et la stabilité économique nécessaires pour stimuler le pouvoir d'achat. Il n'existe de sécurité ni intérieure ni mondiale sans sécurité climatique. La course vers l'économie de demain est lancée.
La course est lancée. Maintenant, comment atteindre l'arrivée ? Keir Starmer reste flou, mais confiant, l'objectif est réaliste.
Je crois que le levier d'action principal pour atteindre ce nouvel objectif, c'est l'énergie 100% propre d'ici 2030. La solution ne passe pas par le fait de dicter aux gens la manière dont ils doivent vivre et se comporter.
Les conseillers climat du gouvernement rappellent tout de même que Londres a pris du retard sur ses engagements déjà établis. Starmer espère encourager les autres participants à la COP à se montrer ambitieux dans leur action climatique. Emeline Van Londres, RFI.
Et à la COP29, les négociateurs américains veulent, eux, avancer d'ici l'arrivée de Trump au pouvoir. Les États-Unis sont au cœur des négociations pour conclure un accord sur l'augmentation considérable des financements pour aider les pays les plus pauvres à s'adapter au changement climatique et à passer à des énergies plus propres. La réélection de Donald Trump la semaine dernière a assombri un peu les perspectives. Climato-sceptique, le président américain élu a juré de retirer de nouveau les États-Unis de l'accord de Paris. Des actes qui rappellent les crimes internationaux les plus graves à Gaza. C'est ce qu'a déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU la chef par intérim du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, qui a dénoncé, je cite, « la cruauté quotidienne subie par la population de la bande de Gaza, assiégée et bombardée par Israël ». Israël qui a annoncé de son côté l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau point de passage pour l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, soit juste avant la date limite fixée par les États-Unis pour l'augmentation de cette aide. Insuffisant, déclare l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et 8 ONG internationales. Selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, plus de 43 600 morts et en majorité des civils ont été recensés sur le territoire palestinien depuis le début de l'offensive menée par les Israéliens en octobre 2023. Au Liban, au moins 29 personnes ont été tuées ce mardi dans des frappes israéliennes, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, selon le ministère libanais de la Santé. En Jordanie, je vous en parlais dans les titres, à l'approche de l'ouverture de la session parlementaire prévue pour le 18 novembre, les regards sont tournés vers le Parlement, où les tensions devraient être palpables. Des tensions notamment entre le parti du Front de l'Action islamique, représentant des frères musulmans, et les autres formations politiques. Les frères musulmans ont obtenu plus de 30 sièges lors des dernières élections et s'orientent désormais vers une stratégie de prise de pouvoir. L'enjeu de cette session semble être de taille, contrôler les leviers législatifs, exercer une fonction de surveillance accrue et confronter directement le gouvernement. Reportage de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
Les plans du parti des frères musulmans semblent clairs depuis l'annonce de l'obtention de plus de 30 sièges parlementaires. Ils visent à prendre les commandes, à contrôler les volets législatifs et de surveillance et à entrer en confrontation directe avec le gouvernement. Wael Al-Saka, secrétaire général du parti du Front d'Action Islamique.
Nous avons obtenu 450 000 voix lors des élections, tandis que ceux qui sont arrivés en deuxième position n'ont obtenu que 90 000 voix. Il est donc légitime que nous participions à la direction de la Chambre des députés et que nous choisissions un président respectueux des députés.
La tentative des frères musulmans de tracer leur voie vers le contrôle du Parlement a été accueillie par des défis et des menaces de la part des autres partis, en particulier du parti du Pacte, qui promet une bataille parlementaire féroce. Mohamed El Momani, l'un des membres du parti Pacte.
On pourrait qualifier les divergences entre nous et les frères musulmans de compétition, de concurrence ou même de confrontation. L'essentiel est que nous sommes prêts à y faire face et prêts à adopter des positions qui vont au-delà du discours populiste en proposant des idées fortes, profondes et audacieuses.
La loi électorale prévoit que les partis seront de plus en plus représentés dans les futurs parlements jusqu'à ce que l'on atteigne des parlements et même des gouvernements dominés par les partis, mais cela restera difficile pour ces partis variés, car ils n'ont pas beaucoup de soutien parmi les électeurs. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Des soldats nord-coréens ont commencé à prendre part à des opérations de combat dans l'est de la Russie aux côtés des troupes russes. Propos ce mardi du département d'État américain, ce qui souligne les préoccupations de Washington concernant Moscou et l'aide que lui apporte Pyongyang dans sa guerre face à l'Ukraine. L'Ukraine qui était aussi une thématique en France et plus précisément à l'Élysée aujourd'hui. Emmanuel Macron a reçu le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le déploiement de troupes nord-coréennes aux côtés de Moscou a aussi été commenté par le chef d'État français. C'est une escalade grave dans le conflit en Ukraine. Il a également souligné que le soutien à Kiev demeurait une priorité absolue. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a appelé les Occidentaux à faire plus que seulement permettre à l'Ukraine de se battre. Des mots particulièrement choisis alors que la réélection de Donald Trump aux États-Unis fait ressurgir les menaces d'un arrêt du soutien américain à Kiev. La Suède devient le premier pays à inscrire son nom comme marque déposée. La demande a été officiellement faite auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Et c'est une première mondiale, Ottilia Ferré.
Dans le monde, il existe 8 Suèdes. Oui, oui, 8. 6 aux États-Unis et 1 en Indonésie. Alors c'est légal, rien n'empêche d'autres villes ou même des pays d'utiliser le nom Sweden, mais ça peut porter à confusion. Alors, dans une vidéo empreinte d'humour typiquement suédois, l'Office du tourisme annonce avoir soumis une demande pour déposer sa marque. Une première mondiale. Si les marques ont le droit de déposer leur nom et leur logo afin de préserver leur identité unique, pourquoi les pays n'en auraient-ils pas le droit ? C'est la question posée par Visit Sweden, qui se dit certes flattée par l'imitation, mais préfère n'avoir qu'une seule Suède. Celle des lacs, des îles, des vastes forêts et, je cite, des meubles en kit les plus cools de la planète. Sur un ton toujours humoristique, l'Office du tourisme distribue même un guide pratique pour distinguer la vraie Suède des fausses. Ce problème d'homonyme n'est pas propre au royaume. Dans le monde, on recense par exemple 51 Berlin, 20 Londres, 6 France ou encore 48 Paris. En Suède, on trouve même une ville qui s'appelle Trouville. En déposant ainsi son nom comme marque déposée, la Suède souhaite encourager les autres pays à faire de même. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Et du cinéma pour finir, Gladiator 2, la suite du succès de Ridley Scott, qui se révèle encore plus sanglante et impressionnante. Sophie Torlotin l'a visionnée pour nous.
Rome à tout prix.
Un soldat brisé, réduit en esclavage et qui va combattre dans l'arène pour assouvir sa revanche, Ridley Scott reprend une deuxième fois la trame qui a fait le succès de Gladiator il y a 24 ans. Mais ici, le premier héros étant mort, c'est son fils qui prend le relais.
Lucius, prends la force de ton père. Il se nommait Maximus. Je le vois en toi.
En l'an 2000, Gladiator s'était imposé comme un succès critique et public, engrangeant 465 millions de dollars de recettes et 5 Oscars. Ridley Scott avait réussi alors à réaliser un blockbuster historique, remettant au goût du jour, réaliste et documenté, le genre hollywoodien désuet du péplum. Son Gladiator 2 se révèle, lui, plus brutal que sentimental. Les ficelles scénaristiques ressemblent à celles du premier et le réalisateur cède à la surenchère. Il n'y a pas un empereur fou, mais deux. Les batailles sont encore plus spectaculaires, à grand renfort d'hémoglobine et d'effets numériques. Reste le jeu des acteurs, tous excellents, à commencer par Paul Mescal, digne successeur de Russell Crowe.
Sophie Torlotin.